Vous écoutez France Culture.
Pura vida. Vida y muerte de William Walker.
Pura vida. Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation, Arnaud Bertina.
Huitième épisode.
Le narrateur connaît maintenant dans le détail la seconde expédition de William Walker en 1856. Et dans un échange avec Victor, son frère, son double, son fantôme, il en a retracé l'intensité folle et vaine, qui n'est pas sans faire écho à la violence prédatrice des gangs qui rendent la vie fragile à Tegucigalpa, la capitale du Honduras, qu'ils arpentent tous les soirs. William Walker va convaincre les membres d'une organisation suprématiste blanche, les Chevaliers du Cercle d'Or, de financer sa dernière expédition.
Les Chevaliers du Cercle d'Or, je ne connais pas cette confrérie.
C'est à La Havane que tu as eu l'idée d'écrire la vie et la mort de William Walker ?
Oui, c'est aussi à La Havane que j'ai découvert les activités occultes de cette secte. Je m'étais installé à Cuba, il y a quelques années de cela, et j'avais recruté un chauffeur pour me déplacer dans l'île, Paco de Santero.
Bon, vous savez, avocat ici, c'était vraiment trop... Vous avez un mot pour ça ?
Épineux ?
Épineux.
Oui, ça veut dire que c'est compliqué. Avocat ici, ce serait compliqué comme de traverser un buisson couvert d'épines.
C'est exactement ça. Avocat ici, c'est épineux. Et notez que j'ai pourtant des appuis, hein, des protections.
Des appuis ?
Bon, bref. J'en ai eu assez de toutes ces épines. Et comme fidèle à légaliser une centaine de petits métiers, je suis devenu chauffeur. Pour vous servir.
Et c'est vrai que Fidel a fait publier la liste des plantes sauvages comestibles.
Oui, c'est vrai. Parce que dans les épiceries, tout a disparu. On manque de tout. On est en 1993 et je crois qu'on touche le fond, vous savez.
Et donc dans ces professions qu'il rend légales, il y a chauffeur privé.
Ouais. Et comme j'avais votre 403 Peugeot, c'était le début d'une nouvelle vie.
Ce n'était évidemment pas ma voiture, mais dans la tête de Paco, un lien évident, peut-être même vital, rattachait tout Français à cette Peugeot 403 rouge vif, hecho en Argentina au tout début des années 60. Après avoir participé à la remise en état du véhicule grinçant, plus proche déjà de la ferraille que de la chaîne de montage, payé l'usinage ou le bricolage de quelques pièces introuvables, néanmoins soutirées de divers stocks soviétiques ou bulgares et adroitement adaptées à la technologie socialienne, j'avais obtenu d'être le seul client du taco et l'occasionnel confident de son conducteur taciturne.
Bon, vous savez, j'ai 60 ans, alors j'en ai vu d'autres, comme vous dites. Pendant 30 ans, les prisons de Cuba, alors...
Au rétroviseur pendaient les amulettes de la Santeria. Un petit bateau en plastique pour Yamaya. Sur le plancher roulaient les noix de coco sacrées et les meringues. Parfois, dans le coffre, près de sa casuela de santo, gisait entravé un coq qui ce soir serait Django. Tout cela sentait l'animisme à plein nez. Le dernier annuaire de La Havane datait alors de 1979 et Paco n'avait pas non plus d'idée très claire de la topographie des zones périphériques nouvelles de la capitale. Ceux dont je cherchais à l'époque la trace présentaient quant à eux la particularité d'avoir souvent changé de nom ou de réseau social. Notre 403 naviguait tard le soir dans des allées de traviole, promenait le faible pinceau de ses phares myopes à la recherche d'adresses hypothétiques dans les quartiers de Marianao ou de Santa Fe, de Guanabacoa ou de Lowtown. Paco interrogeait des vieux qui somnolaient au fond de leur fauteuil à bascule sur des terrasses en bois envahies par les chats. De jeunes types en débardeur ressoudaient le pont arrière d'une Lada posée sur deux troncs de palmiers. On éteignait pour nous le chalumeau, on versait au fond d'une tasse une linéa de rhum. J'offrais à la ronde des cigarettes blondes et vénézuéliennes et me prétendais romancier, pour qu'aussitôt les récits affleurent, avec cet espoir souvent que, pour une fois, tout cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. L'espoir rarement explicite que, par procuration, de tout ce qui fait une vie demeure un détail, un polaroïd. Et Paco et moi avons fini par rencontrer le type détenant les archives des Chevaliers du Cercle d'Or.
Quel genre de bonhomme ?
Un très vieil agent basque du Comintern. Curieux, non ? Son existence rocambolesque et le fait d'être doué pour les langues. Voilà ce qu'il avait fait valoir pour intégrer l'équipe des conseillers de Che Guevara, à l'époque où celui-ci était ministre de l'Industrie. L'organisation fraternelle et secrète des chevaliers du Cercle d'Or, aux rites d'initiation souterrains et codés, des costumes de cérémonie, des clés, toute la bimbloterie habituelle de ce genre de gaminerie, semblait avoir atteint l'apogée de sa puissance économique entre les années 1850 et 1860. Le Cercle d'Or en lui-même représentait une figure géographique dont le centre était le port de la Havane. Son rayon d'environ 1000 km balayait au nord les États du Maryland et du Kentucky, tous les États confédérés du Sud, le Texas, le Mexique et l'Amérique centrale, la Colombie, le Venezuela, le nord du Brésil et toutes les Antilles. Sa circonférence délimitait ainsi une région fertile sur laquelle devait s'étendre l'immense empire esclavagiste des chevaliers, dont la puissance et la gloire rivaliseraient dans l'histoire avec celle de Pharaon. Les chevaliers du Cercle d'Or peuvent avoir été plusieurs milliers ou dizaines de milliers dans les États du Sud avant la guerre de Sécession. Mais l'organisation était si cloisonnée, les adeptes répartis à leur insu en loges indépendantes appelées châteaux, hiérarchisées selon leur rôle futur hypothétique en troupes de l'extérieur, troupes de l'intérieur, supplétifs, légions, que seul le pseudo-général Bickley, natif de Virginie, médecin et journaliste comme William Walker, grand maître de la secte, était supposé en connaître l'ampleur et surtout le montage financier. Ce Bickley, bien évidemment grand prosélyte du destin manifeste, escroc génial, ou allumé lui-même, un peu des deux sans doute, nourrissait l'ambition personnelle de devenir empereur du Mexique. Tout comme William Walker l'avait fait avec le Sonora quelques années plus tôt, il avait commencé de vendre sur plan des étendues considérables du territoire mexicain.
Messieurs, chevaliers, je vous en prie, s'il vous plaît. Les terres que vous avez réservées...
Non. Pour lesquelles nous vous avons avancé beaucoup d'argent. Ouais.
Messieurs, je vous en prie.
Cela fait maintenant près de 4 mois que vous nous promettez cette expédition militaire pour récupérer nos terres mexicaines.
Mais justement, messieurs, je cherchais la personne capable de diriger une telle expédition. Et je l'ai trouvée.
Qui est-ce ?
William Walker.
Comment ?
Un homme d'une valeur exceptionnelle. Un leader d'un courage exemplaire et qui connaît parfaitement ces pays-là. Messieurs, les chevaliers, je vous le redis. Le destin est en marche. Ce William Walker, vous en parlerez bientôt comme le champion du Cercle d'Or.
Et en juillet 1860, la goélette J. E. Taylor avait quitté le port de Mobile et mis cap au sud, vers le Belize et les îles de la baie au Honduras, vers le paradis des aventuriers. À son bord, on retrouve donc William Walker, armé par les chevaliers texans.
Bickley Walker, on dit qu'on ne prête qu'aux riches, mais les cinglés sont assez doués, eux aussi, pour se renifler les uns les autres. Continue, la Havane, en 1993. Tu parlais d'hommes que tu recherchais, qui avaient eu plusieurs identités. Tu as mentionné ce type, un basque du Comintern, et les archives du Cercle d'Or. Mais on est bien d'accord, ce n'est pas ce que tu cherchais à ce moment-là. Quelle piste suivais-tu ?
Victor, qui était si mystérieux, qui s'était absenté du monde pendant quelques années, ne me faisait parler ce soir-là que pour confirmer son intuition, ou ce qu'il croyait savoir. Pour habiter cette nuit fantastique, je déroulais à nouveau pour lui le fil de l'histoire et la vie du Che .50, El Otro Che, El Che .50, que l'écrivain argentin Sergio Cherfec m'avait aidé à mieux connaître quand nous nous étions rencontrés à Caracas.
Un homme de l'ombre et du secret. Le modèle éternel du traître, du mercenaire, sans foi ni loi, si tu veux mon avis.
C'est Sergio qui me donnera le plus d'informations au sujet de cet homme, Alfonso Manuel Herre, qui utilisera souvent d'autres identités. Il naît comme le vrai Che en Argentine, mais quant au lieu exact, les versions divergent. Parfois c'est à Olivos qu'on le fait naître, et parfois dans le centre de Buenos Aires. Et pour la date, ce devait être autour de 1915. Sur cette archéologie du traître flottent les noires oriflammes de morts mystérieuses et toutes féminines, celles de sa mère, de ses quatre sœurs et de sa très jeune épouse Maria del Carmen. Puis il a 20 ans et doit s'enfuir une première fois parce qu'on l'accuse ou on le soupçonne d'assassinat. Il gagne le Paraguay en 1937, puis le Brésil.
Dès cette époque, il a 3 armes, un grand pouvoir de séduction, un courage physique hors du commun, et la capacité de fouiller comme un coyote les poubelles de l'histoire, où on trouve toujours un os à ronger.
Et pour ces 3 armes, il faut un champ de bataille.
Il choisit la guerre d'Espagne et obtient un visa de la Jeune République au consulat de Santos. Voyage clandestinement sur un cargo français de Rio de Janeiro à Casablanca. Les républicains le récupèrent au Maroc et lui font rejoindre Barcelone. Il découvre les combats, mais déserte au bout de quelques mois, invoquant plus tard les 2 motifs du manque d'organisation de son unité et des persécutions religieuses. Recherché, il franchit les Pyrénées. Les Français l'arrêtent à Perpignan. C'est alors la prison ou bien voir du pays. Il accepte la proposition et on l'expédie dans un bataillon de la Légion étrangère en Algérie. Des sables blonds du Sahara, des palmiers secs aux ombres rares et des méharés, il conservera peut-être peu de souvenirs, mais une corde à son arc, qui 20 ans plus tard l'enverra jusque dans la Sierra Maestra, à l'est de Cuba. Le voilà pilote et apprenti parachutiste. Après quelques sauts, il déserte à nouveau et s'enfuit au Maroc espagnol, puis à Madrid, en 1939, où il intègre cette fois les services spéciaux de Franco. Il effectue des missions secrètes en France au sein des groupes de républicains exilés, des exécutions peut-être, mais c'est déjà juin 1940, l'exode des Français du Nord qui vont à leur tour s'entasser dans les camps de réfugiés du Midi, celui de Brame comme tous les autres. Notre homme disparaît.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est au Portugal, où peut-être il rêve d'une carrière cinématographique. Son visage de charmeur latin, entre Carlos Gardel et Rudolf Valentino, apparaît dans 2 ou 3 longs métrages de comédie, à la limite de la composition et de la simple figuration. Imaginons un instant qu'il eût pourtant connu le succès escompté, qu'il fût devenu une vedette de cinéma. Nous ne retrouverions pas sa trace à Caracas, 2 ans plus tard, ni son nom, inscrit sur la Lista Negra du 8 juillet 1942, qui n'est pas un générique de film, mais une liste d'infamies publiée par le gouvernement du Venezuela et qui recense les activistes nationaux et étrangers susceptibles de déstabiliser la puissance pétrolière en faveur du nazisme, du fascisme et des phalanges franquistes. Notre homme y figure au titre d'aventurier. On y mentionne son passage à la Légion étrangère. On y affirme, à la légère semble-t-il, qu'il fut également aviateur de la Légion Condor allemande pendant la guerre d'Espagne. Il a plus d'un tour dans son sac et une grande capacité d'adaptation. Il se reconvertit dans le petit commerce en attendant les jours meilleurs. Il est épicier, puis vendeur de machines à écrire. Poursuit sa vie de séducteur, imagine peut-être se hisser dans la société par les femmes. Les jours meilleurs ne viendront pas. Les femmes, c'était une mauvaise idée. En décembre 1942, le champion de boxe Luis Zarzalejo le surprend dans le lit de sa maîtresse et Alfonso Manuel Herré tire au pistolet sur le champion poids lourd du Venezuela. Aucune mansuétude, on peut l'imaginer, pour l'assassin étranger d'un héros national. Le futur Che.50 ne quittera la prison Modelo de Caracas qu'en décembre 1951, expulsé vers ses pampas d'origine. Et c'est la première fois que ne se rencontreront pas par hasard les 2 futurs Che.
En décembre 1951, quand l'ancien prisonnier du Venezuela descend d'un avion à Buenos Aires, les menottes au poignet, il est âgé de 35 ans. Ernesto Guevara, âgé de 22 ans, dépose un dernier baiser sur le front de sa jeune fiancée aux longs cheveux noirs, la belle Maria del Carmen, en vacances sur la côte. Découvriront-ils dans quelques années ces 2 futurs Che, un soir au fond de la Sierra, que leurs premières amours portaient le même prénom? Ernesto Guevara quitte le même mois l'Argentine à motocyclette, pour un voyage qui le mènera jusqu'au Venezuela, et Alfonso Manuel Herré aussi. Pendant les mois qui vont suivre, les deux hommes seront souvent dans les mêmes capitales au même moment, mais d'un bord et de l'autre du champ politique. Santiago du Chili, Lima, où l'ancien agent reprend du service et se voit confier des missions d'espionnage dans les milieux pro-communistes, ceux-là même que fréquente alors le jeune médecin idéaliste. Expulsé du Pérou, l'ancien légionnaire gagne l'Équateur, où il restera un an, avant d'arriver au Costa Rica, où il entre comme mécanicien à la compagnie aérienne Laxa. En décembre 1953, le futur Che Guevara débarque à son tour à San José. Il est de passage. En compagnie de quatre jeunes amis, il envisage de traverser le Nicaragua, puis le Salvador, en automobile, pour se rendre au Guatemala et soutenir la réforme agraire du président Arbenz. Pendant ces quelques jours de stand-by au Costa Rica, voit-il une affiche, entend-il à la radio vanter les prouesses de son compatriote, qui se livre le week-end à des exhibitions de parachutisme?
Laissons cet homme à sa vie désormais routinière de mécanicien d'avion, de parachutiste du dimanche, et suivons le jeune Ernesto Guevara, qui restera un an à Ciudad Guatemala, jusqu'à ce que la CIA décide de donner un grand coup de pied dans cette fourmilière gauchiste et envoie du Honduras son mercenaire Armas pour renverser Arbenz. Le beau jeune homme, encore sans béret noir, s'enfuit alors au Mexique, où il devient photographe de rue avant de rencontrer les exilés cubains du mouvement du 26 juillet. En 1956, Ernesto Guevara est arrêté pour activisme par la police mexicaine et incarcéré en compagnie de Fidel Castro et de quelques autres. Une photographie en noir et blanc, à l'intérieur de la prison, le montre souriant, en costume blanc, devant le groupe des Cubains qui embarqueront avec lui sur le Granma. Les services secrets nord-américains commencent à s'intéresser à ce jeune médecin asthmatique qui prend une dimension imprévue dans la guérilla. Les Cubains viennent de lui confier le commandement d'une colonne. Que savent-ils alors dans cette fiche de 4 pages établie le 13 février 1958 ? Pas grand-chose. Et ce n'est pas la référence à la seule publication du futur Che, recherche cutanée avec antigène alimentaire semi-digéré, mai 1955, in revue ibéro-américaine d'allergologie, qui va les éclairer. Décision est prise d'envoyer un agent au contact.
La CIA, qui connaît le passé d'Alfonso Manuel Herre, le recrute aussitôt. Elle voit ainsi la possibilité d'installer auprès de Che Guevara un compatriote aguerri au combat, capable de boire le maté les soirs de nostalgie, et de recueillir ses confidences et ses projets d'avenir au cours de la lutte. Le 30 mars 1958, lorsque le C-46 chargé d'armes et de munitions, fusils, mortiers et mitrailleuses Madsen calibre 50 se pose clandestinement à Cuba, les survivants mythiques du débarquement du Granma sont dans la Sierra Maestra depuis un an et demi, où l'une des premières décisions de Che Guevara avait été la création d'un journal, El Cubano Libre. Pour les jeunes guajiros, Alfonso Manuel Herre, qui demeure un temps au sein de l'armée rebelle comme instructeur, et leur enseigne avec son accent argentin et ses Che incessants qui ponctuent le maniement des Madsen .50, devient aussitôt El Che Punto 50, le Che .50. Il parvient à se lier avec Camilo Cienfuegos, mais l'autre Che, le vrai Che Guevara, se méfie de cet aventurier. À l'été 58, les choses s'accélèrent et il n'est plus temps de penser à ses réserves. Che Guevara descend vers le Llano à la tête de ses troupes et gagne l'Escambray. Camilo Cienfuegos est envoyé vers l'ouest de l'île. Fidel Castro orchestre depuis l'Oriente la marche victorieuse de la révolution sur la capitale. Batista s'enfuit. Les premiers Barbudos entrent dans la Havane le 2 janvier 1959. Le traître passera toute la première année de la révolution à Cuba, non seulement en semaille, mais en greffe, selon la terminologie des services. Il intègre la Commission nationale du logement, se rapproche encore de Camilo Cienfuegos lorsque celui-ci est nommé chef d'état-major de l'armée. Le 18 mai 1959, il obtient la nationalité cubaine. Les deux Che, le vrai et le faux, se rencontreront une dernière fois en août. Les Cubains, qui veulent exporter au plus vite la révolution et créer de nouveaux foyers, projettent le débarquement de 200 hommes à Saint-Domingue pour lancer la lutte contre le dictateur Trujillo. L'opération est éventée et échoue.
Au moment de cette attaque cubaine, le très jeune Félix Rodriguez, dont la famille a fui Cuba dès le triomphe de la Révolution, suit sa première formation militaire dans un camp dominicain d'entraînement des jeunes cubains anticastristes. Il voit les 200 barbudos cubains tomber du ciel. Et il racontera plus tard comment ce débarquement tourna au massacre. Trujillo avait promis aux paysans de l'île une prime de $1,000 par tête pour les envahisseurs capturés. Les paysans prirent le dictateur au pied de la lettre et se présentèrent dans les commissariats avec de grands sacs à patates emplis de têtes de barbus décapités. Félix Rodriguez ajoutera, en plaisantant, que l'opération avait fini par coûter bien plus de $200,000 au dictateur.
8 ans plus tard, c'est ce même Félix Rodriguez, en bel uniforme de ranger, qu'on verra debout auprès de Che Guevara en haillon, les mains liées par devant, dans la cour de l'école de la Higuera, en Bolivie. Quelques heures plus tard, après qu'on aura achevé le prisonnier d'une rafale de fusil mitrailleur, c'est lui qui convoiera le corps accroché au patin de son hélicoptère pour aller le présenter à la presse à Valle Grande.
Pour l'heure, nous sommes à l'automne 1959 et la CIA décide d'agir à plus grande échelle contre Cuba, de préparer une invasion militaire de l'île et d'installer sur une portion du territoire cubain ainsi libéré un gouvernement d'opposition. Mais il faut pour cela convaincre les politiques, et l'agence est contrainte de griller plusieurs de ses agents, dont le Che.50, auquel on demande de quitter la Havane pour les fêtes de fin d'année. Dès janvier 1960, notre homme est à Washington. Les 22 et 23, il dépose devant la sous-commission de sécurité intérieure de la commission de justice du Sénat des États-Unis. Il affirme être âgé de 44 ans, se déclare chef des troupes de parachutistes de Fidel Castro, avec le grade de capitaine. Décline deux identités et produit sous l'une et l'autre divers documents, dont une licence cubaine de pilote de chasse et une carte de membre de la compagnie costaricienne LAXA. La séance aborde la menace communiste contre les États-Unis à travers les Caraïbes. Une partie de sa déposition est rendue publique dès le 12 mars, sous la forme d'un article de presse intitulé « Les confidences d'un ancien fidéliste » et sous-titré « Le Che vit comme un roi à la Havane ». Le soi-disant transfuge cubain s'y livre avec humour à un autoportrait et déclare que Che Guevara n'est qu'un aventurier étranger, un cantinflas des Cubas se préparant à devenir millionnaire. Ces complexes réflexions géopolitiques sont destinées à préparer l'opinion publique nord-américaine à l'opération Baie des Cochons du 15 avril 1961.
C'était
Pura Vida, Vie et mort de William Walker.
De Patrick Deville.
Adaptation Arnaud Bertina.
8e épisode.
Avec
Vincent Schmitt.
Le narrateur.
Charlie Nelson.
Victor.
Donatien Guillot.
Paco Lucentero.
Eric Erso Macarel.
Sergio Cherfec.
Romain Lemire.
Bicle.
Niki Marbeau. Mustapha Abou Rachid.
Les clients.
Et Manuel Ulloa. Marina Moncade. Paola Cordon. Bruitage
Bertrand Amiel.
Conseillère littéraire
Emmanuel Chevrière.
Équipe de réalisation
Éric Villonfin, Mathieu Tourin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand.
Pura Vida, Vie et mort de William Walker de Patrick Deville est publié aux éditions du Seuil. Hasta mañana.
À demain.